personne n'ignore que depuis 10 ans, plusieurs astronomes de l'Académie ont été envoyés par ordre du roi sous l'équateur et au cercle polaire pour y mesurer les degrés terrestres, tandis que d'autres académiciens faisaient en France les mêmes opérations. Sous un autre règne, tous ces voyages, avec l'appareil et le nombre d'observateurs qu'ils exigeaient, n'auraient pu être que le fruit d'une longue paix. Sous celui de Louis XV, ils ont été conçus et heureusement exécutés pendant le cours de 2 sanglantes guerres, et tandis que les armées du roi volaient un bout à l'autre de l'Europe pour les secours de ses alliés, ces mathématiciens, dispersés sur la surface de la Terre, travaillaient sous les zones torrides et glacées au progrès des sciences et à l'avantage commun des nations. Ils ont rapporté pour fruit de leurs travaux la décision d'une question célèbre, décision dont la géographie, l'astronomie, la physique générale et la navigation partagent l'utilité. Ils ont éclairci un doute où la vie des hommes était intéressée. Ces motifs méritaient qu'on prît toutes les peines qu'il en a coûté pour venir à bout de cette entreprise. L'Académie ne l'avait pas perdu de vue depuis son établissement, et elle vient d'y mettre la dernière main. Sans insister sur les conséquences directes et évidentes qu'on peut tirer de la connaissance exacte des diamètres terrestres pour perfectionner la géographie et l'astronomie, le diamètre de l'équateur, reconnu plus long que celui qui traverse la Terre d'un pôle à l'autre, fournit un nouvel argument, pour ne pas dire une démonstration nouvelle, de la révolution de la Terre sur son axe. Révolution qui tient à tout le système céleste. Le travail des académiciens, tant sur la mesure des degrés que sur des expériences du pendule perfectionnées et faites avec tant de précision à différentes latitudes, répand une nouvelle lumière sur la théorie de la pesanteur qui de nos jours a commencé à sortir des ténèbres. Il enrichit la physique générale de nouveaux problèmes, jusqu'à présent insolubles, sur les quantités et les directions de la gravité dans les différents lieux de la Terre. Enfin, il nous met sur la voie de découvertes encore plus importantes, comme celle de la nature et des lois véritables de la pesanteur universelle, cette force qui anime les corps célestes et qui régit tout dans l'univers. Les erreurs que la connaissance de la figure de la Terre peut faire éviter aux navigateurs sont-elles moins des erreurs parce qu'il en reste d'autres qui sont jusqu'ici sans remède? Non, sans doute. Plus l'art de la navigation se perfectionnera, plus on sentira l'utilité de la détermination de la figure de la Terre. Peut-être touchons-nous au moment où cette utilité sera sensiblement aperçue des marins. Mais en est-elle moins réelle quand ce moment serait encore éloigné? Il est du moins certain que plus on a eu de raisons de douter si la Terre était allongée ou aplatie, plus il était important, même pour les conséquences de pratique, de savoir à quoi s'en tenir par des mesures décisives. Le premier projeté et le dernier terminé des 3 voyages qui ont eu dans ces derniers temps la mesure des degrés terrestres pour objet est celui de l'équateur, entrepris en 1735 par M. Godin, M. Bouguer et par moi. Le public a été informé depuis plusieurs années du succès des travaux des académiciens qui ont opéré sous le cercle polaire et dans nos climats, et M. Bouguer, arrivé plus tôt que moi en France, a rendu compte à l'Assemblée publique de l'Académie du 14 novembre 1744 du résultat de nos observations sous la ligne équinoxiale et de l'accord qui se trouve entre ce résultat, celui du Nord et celui de France, dont chacun, comparé à l'un des 2 autres, prouve l'aplatissement de la Terre vers les pôles. Un plus grand détail est réservé pour l'histoire de notre mesure de la Terre, c'est-à-dire de nos observations astronomiques et de nos opérations trigonométriques dans la province de Quito en l'Amérique méridionale, ouvrage dont nous sommes comptables à l'Académie et au public, puisque c'est pour ce travail que nous avons été envoyés. La question de la figure de la Terre étant terminée, et la curiosité du public ralentie sur cet objet, je crus l'intéresser davantage à l'Assemblée publique du 26 avril dernier par une relation abrégée de mon voyage de la rivière des Amazones, que j'ai descendu depuis le lieu où elle commence à être navigable jusqu'à son embouchure, et que j'ai parcouru dans une étendue de plus de 1000 lieues. Mais l'abondance des matières ne m'ayant pas permis de me renfermer dans les bornes prescrites à ma lecture, qui se trouvèrent encore resserrées, je fus obligé de faire de nouveaux retranchements à mesure que je lisais, ce qui interrompit nécessairement l'ordre et la suite de mon premier extrait. Je le fais paraître aujourd'hui sous la même forme que je lui avais donnée d'abord. Pour ne point tromper l'attente de ceux qui ne cherchent dans une relation de voyage que des événements extraordinaires et des peintures agréables de mœurs étrangères et de coutumes inconnues, je dois les avertir qu'ils ne trouveront dans celle-ci que peu de quoi se satisfaire. Je n'ai pas eu la liberté de promener le lecteur indifféremment sur tous les objets propres à flatter sa curiosité. Un journal historique que j'ai écrit assidûment pendant 10 ans m'aurait peut-être pu fournir les matériaux nécessaires pour cet effet, mais ce n'était ni le lieu ni le moment de les mettre en œuvre. Il était question de la carte que j'avais levée du cours d'un fleuve qui traverse de vastes pays presque inconnus à nos géographes. Il s'agissait d'en donner une idée dans un mémoire destiné à être lu à l'Académie des sciences. Dans une pareille relation où je devais moins songer à amuser qu'à instruire, tout ce qui n'eût pas appartenu à la géographie, à l'astronomie ou à la physique ne pouvait manquer de paraître une digression qui m'éloignait de mon objet. Mais aussi, il n'était pas juste d'abuser de la patience du plus grand nombre de ceux qui composaient l'assemblée publique par une liste de noms barbares de nations et de rivières et par un journal de hauteur du soleil et d'étoiles, de latitude et de longitude, de mesures, de routes, de distances, de sondes, de variations de la boussole, d'expériences du baromètre, etc. C'était là cependant le fond le plus riche et ce qui faisait le plus grand mérite de ma relation. C'était, du moins, la seule chose qui pût la distinguer d'un voyage ordinaire. J'ai tâché de prendre un milieu entre ces deux extrémités. J'ai renvoyé tout le détail de la partie astronomique et géométrique aux mémoires de l'Académie ou au recueil de nos observations qui doit en être une suite. Je n'en donne ici que les principaux résultats et la position des lieux les plus remarquables en suivant l'ordre de la narration. J'ai traité avec quelque étendue le point des Amazones américaines, parce qu'il m'a semblé qu'on avait droit de l'attendre de moi. J'ai mêlé, aux remarques de physique et d'histoire naturelle, quelques faits historiques quand ils ne m'ont pas trop écarté de mon sujet. Je ne pouvais, sans l'abandonner entièrement, éviter d'entrer dans quelques discussions géographiques qui y étaient intimement liées. Telle est celle de la communication de la rivière des Amazones avec l'Orinoque, anciennement établi, ensuite nié et enfin nouvellement constaté par des témoignages décisifs. Telles sont les recherches de la situation du village de l'or et de la borne plantée par Teixeira, celle du lac Parimé et de la ville de Manoa, celle de la rivière de Vincent Pinson, etc. Chacun de ces articles m'eût pu fournir le sujet d'une dissertation. Je ne les ai traités qu'en passant, sachant combien peu de lecteurs sont curieux de ces sortes de détails, quoique utile et intéressant pour ceux qui aiment ce genre d'études. La petite carte du cours de l'Amazone qui accompagne cette relation suffira pour fixer l'imagination du lecteur, en attendant que j'en puisse donner une plus grande et plus détaillée dans nos mémoires, où je rendrai compte des moyens que j'ai employés pour la construire. Mais cette dernière ne paraîtra que lorsque je lui aurai donné le degré de précision que je puis lui procurer en réduisant tous mes calculs de route et de distance et les corrigeant par mes observations astronomiques. C'est ce que je ne pourrais faire qu'imparfaitement aujourd'hui, manquant encore d'observations de longitude faites sous quelques méridiens connus pour suppléer à celles qui n'ont pu être faites à Paris en correspondance des miennes dans divers lieux de ma route. J'ai joint au cours de l'Amazone la topographie de la province de Quito, prise de la carte des triangles de notre méridienne. J'ai tiré la description des côtes de la même province, la route de Quito à Lima et celle de Quito à Popayán, de mes voyages particuliers et de ceux de M. Bouguer. Le reste de la carte a été extrait de divers mémoires, journaux et notes qui m'ont été communiqués dans le pays par divers missionnaires ou voyageurs intelligents. M. Danville, géographe du roi, dont l'habileté est connue, m'a été d'un grand secours pour rédiger et combiner ces matériaux épars et en enrichir ma carte. J'ai suivi les orthographes espagnoles et portugaises à l'égard des noms de ces deux langues et même des noms indiens des pays soumis à la domination de ces deux couronnes. J'ai voulu, par là, éviter l'inconvénient de les rendre méconnaissables dans les auteurs originaux.